Vous écoutez
Radio Panique. Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Je suis indignée en tant que femme parce qu'une femme, pour avoir le droit d'être ce qu'elle est juste en tant que femme et pouvoir être libérée, il y a certaines choses qu'elle doit accomplir, qu'elle doit être, c'est-à-dire elle doit être une bonne mère qui réussit professionnellement. Enfin, elle doit avoir un certain statut qui l'autorise à pouvoir être libérée à côté. Et voilà, ça m'indigne.
Dans l'absolu, c'est l'inégalité des sexes encore existante aujourd'hui et plus particulièrement le sexisme dans la publicité. Voilà, je trouve que les publicités sont dénigrantes et complètement humiliantes pour la femme aujourd'hui, que ce soit pour faire l'éloge d'un pot d'échappement ou pour une boisson quelconque, on met les femmes nues sur des grandes affiches et je trouve ça vraiment dégradant.
Et ce qui m'indigne en tant que femme, c'est les peines par rapport au viol qui sont très très courtes en général.
Je suis indignée en tant que femme parce qu'une femme, pour avoir le droit d'être ce qu'elle est juste en tant que femme et pouvoir être libérée, il y a certaines choses qu'elle doit accomplir, elle doit être une bonne mère qui réussit professionnellement. Enfin, elle doit avoir un certain statut qui l'autorise à pouvoir être libérée à côté. Et voilà, ça m'indigne.
Dans l'absolu, c'est l'inégalité des sexes encore existante aujourd'hui et plus particulièrement le sexisme dans la publicité. Voilà, je trouve que les publicités sont dénigrantes et complètement humiliantes pour la femme aujourd'hui, que ce soit pour faire l'éloge d'un pot d'échappement ou pour une boisson quelconque, on met les femmes nues sur des grandes affiches et je trouve ça vraiment dégradant.
Et ce qui m'indigne en tant que femme, c'est les peines par rapport au viol qui sont très très courtes en général. Il y a très peu de réglementations qui sont suivies et voilà, en tant que femme, effectivement, je ne peux pas accepter ce genre de choses, surtout en comparaison avec d'autres peines sur des sujets en général moins.
Je suis indignée en tant que femme parce qu'une femme, pour avoir le droit d'être ce qu'elle est juste en tant que femme et pouvoir être libérée, il y a certaines choses qu'elle doit accomplir, qu'elle doit être, c'est-à-dire elle doit être une bonne mère, quelqu'un qui réussit professionnellement. Enfin, elle doit avoir un certain statut qui l'autorise à aussi pouvoir être libérée à côté.
Donc ce qui m'indigne, il y a beaucoup de choses. La chose qui plus me touche le cœur, c'est voir des femmes, d'êtres humains qui ne peuvent pas circuler. Donc des frontières pour les hommes et les femmes et pas des frontières pour l'argent. Et puis aussi la liberté, parce que c'est un concept qu'on utilise beaucoup. Et je voulais à ce propos vous chanter une chanson. Et donc c'est une chanson en italien, comme je suis italienne. Et j'essaye. Voilà, voilà.
La libertà non è star sopra un albero, non è anche il volo di un airone. La libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione.
Moi, ce qui me met vraiment en colère, ben, c'est le non-respect, qu'on stigmatise directement, voilà, qu'on fait pas attention à la personne, qu'on la rejette, le rejet, voilà. Ça me met vraiment fort en colère. Je parle donc des patrons, déjà, voilà, qui dès que voilà, on nous voit, on te donne pas la possibilité d'exprimer ni de faire valoir de montrer tes qualités pour un travail ou quoi directement. Non, c'est une arabe déjà, voilà, c'est non d'office.
J'entame ma septième année secondaire à l'école pour service aux personnes aides ménagères. Et juste parce qu'on fait de la cuisine, du repassage, nettoyage et tout, etc. Les garçons et tout, ils croient qu'on est des bonnes à tout faire et ça me plaît pas, quoi. Ça se fait pas.
La façon qu'on rabat la femme, que la femme est inférieure à l'homme, que ce soit, moi je vois ça, j'en suis en fait, je suis conseillère dans une école sur Bruxelles et la plupart, c'est il y a 85% de musulmans dans l'école. Donc on a des filles, mais moins en filles, parce que les parents ne veulent pas que les filles côtoient des garçons de leur même âge qu'eux, peur qu'il y ait des problèmes entre eux ou autres. Donc ils les changent d'école.
Grave.
Bonjour, bienvenue sur Radio Panique 105.4 FM. Vous écoutez Elles en parlent encore, une émission de Vie féminine Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le mouvement des indignés. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder la semaine d'action des indignés à Bruxelles. Et par la suite, nous aborderons ce qui nous indigne, nous, en tant que femmes. Avant de commencer l'émission, je vais demander aux invités de la table de se présenter et peut-être d'expliquer comment elles se sont retrouvées dans ces actions du mois d'octobre.
Ok, donc bonjour, moi je m'appelle Christine, je travaille au comité d'annulation de la dette. Donc c'est ADTM et j'y exerce un engagement féministe affirmé. Alors comment je me retrouve avec toutes ces femmes ici autour de la table? Ben c'est parce que il y a eu la semaine des indignés à Bruxelles durant le mois d'octobre et on s'est rendu compte que la thématique du féminisme était assez absente. Et on s'est levé et on s'est rassemblé pour que nous puissions occuper la place publique en débattant des impacts de la dette sur les femmes.
Est-ce que tu pourrais, Christine, nous rappeler en quelques mots, qu'est-ce que le mouvement des indignés ?
Alors, le mouvement des indignés est un mouvement populaire qui est né en Espagne, qui est né en contre-réaction aux mesures d'austérité et surtout face à au constat collectif que les politiques ne représentent plus les besoins et les demandes des gens, des citoyens, des citoyennes, et que face à ça, on n'était plus dans un cadre démocratique, et que donc ce mouvement s'est levé pour réclamer la démocratie réelle maintenant.
D'accord.
Oui, Georgia. Bonjour, je suis Georgia et donc je me retrouve aujourd'hui autour de cette table car j'ai participé à l'Agora et à la manifestation, etc. Et on a travaillé à Vie féminine autour de cette thématique et à la construction aussi des slogans de la manifestation. Donc voilà.
Bonjour, moi c'est Aziza. Pardon. Eh bien, moi, je fais partie de l'espace Vie féminine de Jette. Et j'étais vraiment touchée par ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours pour les femmes. Et j'ai fait partie aussi de la manifestation des indignés. Et franchement, je trouve ça super bien parce que déjà, être indigné, il faut déjà se rendre compte que en tant que femme, il y a plein de droits et de choses pour la femme qui sont bafouées. Et quand il y a pas compte, parce que bon, ce n'est qu'une femme, et ça m'a vraiment interpellée, et ben c'est pour ça que bon, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous pour en discuter et comprendre plein de trucs. Voilà, merci.
Bonjour, je m'appelle Amina, je fais le bénévolat au V féminine de Jette. Je fais une table de conversation. C'est la première fois que je fais une émission radio. Je suis ravie d'être parmi les gens qui sont autour de cette table parce que moi aussi je suis une femme. Normalement, quand je suis rentrée à la vie féminine de Jette, parce que pour moi, la femme, on n'a pas de droit ni rien du tout. Heureusement qu'il y a maintenant des choses qui se passent pour que la femme aussi avoir ses droits et sa liberté. Je suis ravie et voilà, c'est pour ça que je suis là pour parler de tout ça. Merci.
Alors, pour reprendre un petit peu les événements qui ont eu pendant la semaine d'action, il y a eu l'Agora féministe, dette publique et impact sur vie des femmes. Il y a eu aussi l'atelier de création de slogans féministes et la manifestation. Christine, comment est-ce que est née Agora? Où est-ce que ça s'est déroulé? Et qu'est-ce que ça veut dire que la dette est sexiste?
Ok. Bah alors, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc différents militants et militantes de différents mouvements, on ne va pas les tous les signaler ici, se sont rassemblés pour organiser durant la semaine. Enfin, je rappelle ce qui s'est passé un peu sur Bruxelles. Il y a eu, je pense, 200 Espagnols qui, depuis le mois de juillet, ont remonté le nord de l'Espagne, la France, et sont arrivés à Bruxelles pour que l'on ait donc le 15 octobre une grande manifestation qui était mondiale, parce que bon, elle a eu lieu en Belgique, mais elle a eu lieu dans sur les quatre continents de cette planète. Donc la responsabilité, si on peut dire, des Belges et des militants militantes belges à ce moment-là en préparation, était d'organiser des actions durant la présence des Espagnols sur Bruxelles. Alors, le programme se faisant, on a constaté que les femmes n'étaient pas là, ou en tout cas que les féministes n'étaient pas là en tant que promotrices d'actions et de revendications. Alors bon, moi j'ai lancé une bouteille d'eau à la mer via Internet en disant « Eh les filles, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, on n'est pas là ». Alors j'ai eu la réponse de Magali, de Vie Féminine, et à deux, on s'est dit on va monter une action. Comment est-ce qu'on va la monter? Où on va la monter? Alors on a décidé de faire ça devant la banque de Dexia et de prendre le thème d'actualité qui est la dette et toutes les mesures d'austérité qu'on impose en son nom partout en Europe. Donc cette première agora féministe a eu lieu le lundi 10 octobre, je pense, devant Dexia, et a permis à une vingtaine de personnes de se rassembler, et de hommes et femmes, c'était très intéressant, de discuter sur le thème de la dette et d'élaborer des slogans qui ont été par la suite dessinés sur des grandes banderoles et un peu partout attachés sur l'espace public bruxellois.
D'accord. Et pourquoi, quel point de vue est-ce que vous défendez? Pourquoi est-ce que la dette publique a un sexe, en fait, sexiste? Pourquoi la dette est sexiste?
Alors, tout simplement parce que la dette, la crise de la dette est sexuée dans ses caractéristiques et dans ses effets, c'est-à-dire qu'elle touche les populations les plus fragilisées, les plus vulnérables, et donc les femmes. Et parmi elles, les femmes, surtout les mères célibataires, les femmes jeunes, les femmes âgées, les femmes migrantes, aussi les femmes qui viennent des milieux ruraux et des femmes victimes de violences. Donc on peut dire que tout comme les plans d'ajustement structurel donc, qui ont été imposés au Sud ont affaibli et exténué les femmes du Sud, les mesures d'austérité qu'on est en train de nous imposer au Nord pressureront les femmes d'Europe, parce que ces deux mécanismes découlent d'une même idéologie, qui est l'idéologie néolibérale, et cette idéologie est désormais partout à l'œuvre. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que les privatisations, les libéralisations et les restrictions budgétaires au menu des mesures d'austérité sabrent quoi? Ils sabrent en premier les droits sociaux des femmes, ils accentuent la pauvreté des femmes, ils durcissent et aggravent les inégalités entre les sexes, et ils sapent les acquis féministes. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais les mesures d'austérité, en fait, tentent et arrivent progressivement à faire en sorte que l'État social tel qu'il avait été constitué après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'État-providence, qui assurait un certain nombre de fonctions et de responsabilités sociales, mais que cet État social est de plus en plus laminé. Et qui dit laminage d'espace et de responsabilité sociale dit qu'il y a un vide et que ce vide doit être rempli ou pris par une institution ou des personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une translation qui se fait entre de l'état social vers le privé et donc vers la famille. Et on sait qui est au centre de la famille, vers les femmes. Donc les femmes vont devoir assurer les tâches de l'état et vont devoir pour cela augmenter leur part de travail qu'on dit le travail care, le travail de reproduction et de soins aux personnes, et vont devoir faire évidemment tout ça gratos, sans aucune rémunération. Et ce mouvement va aussi permettre de renforcer le sexisme qui existe dans cette société, où finalement on va se dire mais en fait, c'est normal, c'est la place des femmes. La place des femmes est à la maison. Donc, ces mesures d'austérité vont vraiment très loin dans le sabrage de notre émancipation, parce que non seulement ils nous cassent notre autonomie économique, puisque, bon, on va devoir diminuer notre temps de travail pour pouvoir encore assumer ses responsabilités sociales, et on va aussi être confronté à une montée de pensées d'un autre âge qui sont soutenues par l'Église et par la droite et l'extrême droite, de savoir que en fait les femmes c'est dans leur nature de se sacrifier pour les autres, et donc les femmes la place c'est à la maison, dans la famille et dans leurs responsabilités de mère. Donc on voit bien qu'est-ce qui se profile, et c'est pas très joyeux si on se laisse faire.
Exactement. Par rapport à l'action Agora qui a lieu, Georgia, est-ce que tu pourrais nous signaler un peu l'ambiance et ce qui t'a marqué personnellement par rapport à cette action ?
Mais donc, comme Christine disait, vraiment la chose déjà excellente était qu'on était dans un espace public. Donc vraiment, on était une vingtaine, femmes et hommes, assises à la gare centrale. On s'est déplacé après à la gare centrale. Et donc là, c'est vraiment la sensation d'habiter l'espace, que c'est déjà une première sensation de se sentir dans des lieux, que, des passages, et de les occuper, et avec des contenus, et de vivre cet espace public. Donc déjà, une réaction. Et en plus, j'étais étonnée par la participation aussi des Espagnols et aussi de certains garçons espagnols qui avaient fait la marche, que j'ai trouvé vraiment un parcours excellent et qui étaient féministes. Et qui sont féministes, voilà. Et la deuxième chose qui m'avait frappée, c'est le concept de mère sociale que Christine vient de décrire, parce qu'en effet, voilà, si je pense, mais dans notre famille, je veux dire, c'est comme ça l'état social, de moins en moins, on a coupure, et on voit aussi les mesures d'austérité, le budget, et en Belgique, hein, donc d'actualité pleinement. Et après, on retourne dans le privé, et donc c'est qui ? C'est la mère qui prend le rôle de l'État. Donc vraiment, on va en arrière. Et l'Agora, je trouve, c'est vraiment un système magnifique pour se donner la parole et d'expression libre, fort. Donc c'était vraiment une chouette expérience, une première chouette expérience.
Et de quelle manière est-ce que vous vous exprimiez ?
Mais donc il y a, j'ai trouvé c'est une participation assez individuelle et collective, dans le sens que chacune et chacun peut prendre la parole autour du thème. Et là, il y avait eu justement des petits passages pour arriver à la construction des slogans. Donc on a eu une discussion, non, autour de qu'est-ce que c'est la dette dans notre quotidien, là. Et donc on a construit les slogans qu'après on a fabriqué sur des banderoles pour la manifestation. Et là, les slogans, justement, on peut les citer et vous compléter aussi. Hein, il y avait la dette publique à un sexe, austérité égale précarité des femmes. Le travail domestique des femmes ne connaît pas la crise. Nous travaillons, nous accouchons, nous éduquons, cuisinons, lavons, prenons soin des autres et eux décident. Le patriarcat opprime les femmes depuis toujours, le capitalisme nous étrangle et la dette nous brise. La dette machiste se paye avec le travail gratuit des femmes. Pas d'émancipation des femmes sans l'annulation des dettes machistes, ça m'en parle beaucoup. Exploitation capitaliste égale prostitution sociale. Et je pense que c'est tout. On a traduit en espagnol, justement, donc en deux langues, Et après, on s'est donné rendez-vous pour les faire. Et donc là, je fais appel aussi à Aziza pour compléter un peu l'expérience, parce que c'est vrai que ça a été tout un processus. Donc ça, c'est intéressant.
Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience?
Bah, pour moi, c'était une chouette expérience, parce que d'abord, c'est la première fois que j'ai participé à une manifestation, parce que moi, les manifs, ça me faisait toujours peur. Mais là, je me suis sentie concernée, parce que d'abord, c'est pour montrer comme quoi que je suis indignée, et que c'est vrai, depuis des années, que je pense que la femme, elle est toujours léguée au deuxième plan, que pourtant, pour moi, elle devrait être en premier plan. Parce que ça m'a toujours un peu marqué, je sais pas si c'est un proverbe ou une citation, quand on dit « derrière chaque homme fort, il y a une femme ». Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu frappée. Et le fait de participer à la manifestation, donc on s'est organisé, on a été d'abord à l'université, elle a récupéré toutes les affaires et tout. Et après, on s'est concerté pour trouver un endroit qui, en même temps, il soit ouvert et qu'il y aura plus de passages. Et comme ça, il y aura plein de gens qui peuvent nous voir et qu'on peut en discuter. Et ben le choix s'est arrêté sur la place Simonis, juste à la sortie du métro. Et alors, on a, comme dit à l'armée, on a déposé nos quartiers là. Et alors, on a sorti nos slogans, on a sorti nos banderoles. Et on a commencé à peindre et tout. Et ce qui était un peu marquant, c'est que ça interpellait pas mal de gens qui se sont arrêtés pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il y avait de tout âge, il y avait les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, tout, tout, tout. On a eu même le droit à la visite de la police, qu'ils étaient juste à côté de nous pour dire « Bah tiens, au cas où il y aurait un problème », qu'ils étaient même intéressés à voir ce qu'on était occupés à faire. Il y a juste un petit truc qui m'a un peu choquée, bah, c'est plutôt le slogan là, que j'étais occupée à le mettre sur la banderole avec de la peinture. Le slogan, c'est « Nous travaillons, accouchons, éduquons, cuisinons, lavons, prenons soin des autres, eux, et c'est eux qui décident. Bah, » ce qui m'a choquée un peu, c'est que la génération qui monte pour l'instant, il y a deux jeunes qui se sont approchés de Georgia et moi pour nous dire « Mais qu'est-ce que vous demandez encore ? Vous êtes là pour ça ?» Et ça, c'était vraiment, ça nous a un peu choqués, quoi, parce qu'on s'est dit, on n'a pas compris. Alors, on s'est regardé, je dis, mais vas-y, explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Et le garçon, il m'a regardé, il m'a dit, une femme, elle est faite pour être à la maison. Ben, c'est normal qu'elle doit pas travailler à l'extérieur, c'est normal qu'elle accouche, c'est normal qu'elle lave notre linge, qu'elle nous fasse à manger, que. Mais je dis, mais attends, est-ce que tu t'entends parler? Je dis, mais c'est pas normal. Je dis, mais dis-moi, demain, t'es mariée. T'as une femme, qu'est-ce que tu attends de ta femme? Bah, qu'elle reste à la maison, qu'elle me fasse à manger, qu'elle me fasse des gosses. Donc, il y a encore, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a encore du boulot. Il y a encore, et surtout la génération qui monte, il y a encore du boulot à faire pour sensibiliser les gens qu'on n'est pas que des cuisinières ou des lave-linges ou des lave-vaisselle. On a aussi d'autres atouts. On a d'autres projets. Et ben, si on est capable de travailler, de participer à la vie, ramener aussi de l'argent à la maison, c'est qu'on est capable de faire aussi plusieurs choses positives qu'on peut apporter pour améliorer notre quotidien. Voilà.
Merci Aziza.
Oui, ça me révolte, oui.
Indigne.
Oui, voilà, là je le suis. Indigne.
Alors, il y a eu également une manifestation. Ou comment est-ce que c'est passé? Est-ce qu'il y a une comparaison qui est possible avec la manifestation nationale du 2 décembre ou des mesures budgétaires ont été communiquées?
Ouais, en fait, ce qui a été superbe dans la manifestation donc du 15 octobre, donc la manifestation des indignés, c'est que on était véritablement un groupe de femmes, de féministes et aussi d'hommes qui avions un projet et quelque chose à montrer. C'est-à-dire que on est arrivé avec ces slogans sur des banderoles qui étaient assez
grande,
énorme,
qui prenait quasiment toute la largeur de la manif. C'était pas dans notre préoccupation d'avoir cette finalité-là, mais on s'est retrouvé avec d'énormes banderoles. Donc, on s'est retrouvé très visible, très unis parce que on avait fait tout ce travail de préparation ensemble. Et je tiens à dire que tout ça n'avait pas du tout été planifié.
Non.
Dans le sens où ça a découlé d'une dynamique positive, constructive, et que jour après jour, on s'est dit « Ah, et qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Ah, et qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Ah, et comment on va faire les slogans ? Ah, et comment on va investir la manif ?» Et tout ça a donné, a fait en sorte que ces slogans ont été transbahutés dans toute cette manif qui était assez longue, il y avait beaucoup de monde, et qu'on a réussi à être visible avec nos slogans, et qu'après, on a carrément été mettre ces slogans sur le McDonald's de la Bourse, en escaladant, sur la Bourse, en escaladant toujours. Je crois qu'il y en a eu un qui a été mis sur le ring de Bruxelles. Oui. Enfin bon, bref. Donc là, on a pris une revanche dans l'occupation de cet espace public que j'espère qui va continuer. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui se sentent une sensibilité féministe et qui sentent que véritablement on ne peut pas rester insensible face à cette remontée du sexisme et à la dégradation des droits sociaux des femmes, à véritablement rentrer dans l'action. Et rentrer dans l'action pour, lorsqu'il y a des mobilisations contre les mesures d'austérité et contre la dette, essayer de constituer un groupe féminin, féministe, qui démontre que la dette a un sexe et qu'on ne peut pas encore penser que toutes ces mesures sont neutres dans l'égalité homme-femme, quoi. Mmh. Voilà.
Alors, Amina, tu as été présente aussi. Est-ce que comment as-tu vécu cette expérience Comment est-ce que tu perçus les réactions et l'impact de cet événement?
Premièrement, c'était la première fois, comme ce qu'il a dit, c'était la première fois que je me suis retrouvée dans une manif, que c'était vraiment pour moi, la manifestation, c'est toujours des trucs, des choses mal qui se passent et tout. Mais bon, une fois que je me suis retrouvée là, à la gare du Nord, mais c'était waouh! C'était vraiment, c'était il y avait beaucoup de monde, et à un certain moment, je m'avais dit qu'il y aura que c'est possible, il n'y aura que des femmes. Mais quand on s'est retrouvé avec beaucoup d'hommes et tout, mais tout le monde était souriant et tout le monde voulait faire ce qu'on faisait et tout, mais c'était vraiment magnifique. Mais tout est bien passé et voilà quoi. Donc c'est ça.
C'était.
Pour peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est clair que dans les manifestations en général, les féministes et les femmes ne sont pas suffisamment présentes et visibles. Donc vraiment, ça nous appartient de nous renforcer dans les manifestations, parce que de ce fait-là, on trouve mieux notre place aussi.
Oui, voilà.
Donc il ne faut pas, par exemple, la manifestation du 2 décembre était exclusivement masculine. Et je ne dis pas que les hommes ont moins le droit de manifester, mais je veux dire, il faut vraiment que là, maintenant, on soit un groupe scindé au niveau du message qu'on veut passer, mais aussi au niveau de l'espace public et de l'énergie qu'on peut prendre et échanger les unes avec les autres. Parce que beaucoup de femmes ne viennent pas à des manifestations parce qu'elles sont fort masculinisantes, si je peux dire ça comme ça.
Oui, mais c'est vrai. Et c'est frappant. Pour moi, j'ai participé aussi à la manifestation du 2 décembre. Et donc, la manifestation du 15 octobre était vraiment solaire. Il y avait une participation, une expression, une solidarité. Je me rappelle cette banderole énorme. Donc, les portées, il y avait « Eh bien, mais qu'est-ce que je porte ?» Et alors, toujours, quand on s'est questionné par rapport au contenu. Donc, c'était vraiment solidaire. Je ne sais pas, il y avait une chaleur.
Il y avait des gens qui ne manifestaient même pas. Et c'était juste sur le trottoir. Et alors, ils s'amenaient parce qu'ils ont vu, ils ont remarqué qu'on ramait quoi, avec cette banderole. Et je me demande si... Parce qu'il y avait des hommes qui venaient pour nous donner un coup de main. Est-ce qu'ils ne se sont pas venus nous aider pour se dire, Ils sont des femmes, ils sont fatigués, ils ont mal au bras. Allez, on va aller les aider. Mais en tout cas, c'était très sympa. Ce qui était aussi chouette, c'est qu'à un certain moment, il y avait une dame avec nous dans la manif qui a crié « Les femmes à la rue et pas dans la cuisine. » Ouais. Et j'ai vu des hommes qui applaudissaient. Je dis « Waouh, c'est super. Peut-être on a fait peut-être un petit pas. Voilà. » Ça, c'était super.
Oui,
ça,
oui, ouais. Non, de passer à l'action, comme tu disais, vraiment de s'indigner des dons et puis de passer à l'action, d'être présente. Et par rapport à la manifestation du 2 décembre, moi, j'étais vraiment frappée. À part, c'était ma première manifestation si organisée, donc syndicat, etc. Et c'était frappant, le sexisme de cette manifestation. Moi, j'étais vraiment touchée, étonnée. Et là aussi, on était avec notre banderole et on a participé justement avec cette slogan qui est « La précarité n'est pas notre projet de société ». Donc, « Vie féminine » a constitué une participation forte. On a fait une agora féministe aussi à la gare du Midi, etc. Et on a mis notre banderole de nouveau à la bourse. Mais la chose plus frappante, c'était les pétards lancés expressement, parce qu'on était un groupe de femmes, et pour ne pas dire les appréciations sexistes et horribles. Donc vraiment, deux ambiances complètement, je crois, la manifestation du 15, vraiment l'expressivité, la créativité qu'il y avait dedans, la joie et l'être présent. Et comme tu dis, Christine, et Aziza et Amina, être présent dans le sens de, voilà, oser se rassembler, oser dire la nôtre avec notre regard, c'est super important parce qu'on est bafou, cioè, on a un retour en arrière, vraiment. Donc,
D'accord, comme quoi c'est une occasion un peu particulière de se retrouver tous ensemble et pas toutes séparées pour lutter pour les mêmes causes. Nous allons réaliser une petite pause musicale qui sera suivie de capsules reprenant différentes causes d'indignation de femmes. Elle a été enregistrée durant la semaine d'études de juillet de Vie féminine à Namur. Et puis nous reprendrons avec nos réactions plus personnelles sur ce qui nous indigne en tant que femmes.
Qu'est-ce qui m'indigne? Oh là là, le dur, c'est de choisir une chose qui m'indigne. Qu'est-ce qui m'indigne? Qu'est-ce qui m'indigne? Ben, que les femmes ne soient pas entendues dans leurs vraies demandes, dans leurs vrais besoins.
Alors, ce qui me met en colère, c'est qu'il y ait des changements. En fait, on n'a pas ce qu'on revendique, on n'obtient rien encore pour le moment. Je me demande, est-ce qu'on va obtenir au moins quelque chose par rapport aux situations que nous vivons en tant que femmes, et des situations très compliquées, très graves, et que c'est vraiment, il faut prendre le problème à bras le corps pour pouvoir changer cette situation. Mais voilà, on ne voit pas encore le bout du tunnel.
Et moi, ce qui m'indigne, en fait, c'est même encore à l'heure actuelle, c'est le machisme des hommes, quoi. Donc, c'est-à-dire que, en général, quand tu es avec un homme, tu dois te taper les courses, la vaisselle, tirer les assiettes, je sais pas, la lessive, le repassage, tout, quoi. Les enfants, voilà, quoi. Et ça, je trouve que on vit une époque où la femme travaille autant que l'homme, et je trouve qu'il faut partager les tâches. C'est un peu facile de dire, t'es une femme, alors tu te tapes tout, parce que nous, les hommes, on est mieux dans le garage à bricoler des conneries, quoi. Enfin, des conneries. Je trouve que le bricolage pour un homme, enfin, je dis ça parce que des fois, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je suis occupée à bricoler, mais c'est quoi bricoler? C'est un passe-temps, c'est un loisir, hein, c'est pas une lave-vaisselle, le ménage, c'est une corvée.
Alors, ce qui m'indigne concernant la femme, c'est de la valeur qu'on donne à la femme jusqu'à aujourd'hui, depuis que le monde a commencé. C'est comme ça que ça a été, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Et je remercie toutes les personnes qui sont engagées dans cette lutte-là, de retrouver un peu la valeur de la femme, les hommes comme les femmes, parce que les hommes aussi luttent aussi beaucoup pour que la femme retrouve sa place dans la société.
Et en tant que femme, ce qui m'indigne particulièrement, c'est l'inégalité des salaires, premièrement. Et à la pilule, je pense que c'est un poison. Et je pense que, c'est une catastrophe d'avoir mis ce genre de plan sur le marché pour soi-disant faire plaisir aux femmes, alors qu'en réalité, elles empoisonnent quotidiennement. Voilà.
Qu'est-ce qui m'indigne profondément, c'est l'inégalité des sexes aujourd'hui, à l'an 2011, et plus particulièrement les publicités sexistes, où pour vendre de l'orangina ou pour réparer son garage, on doit indigner et humilier la femme, et je ne comprends pas que ce soit autorisé par les autorités publiques. Ça, le jour où ça changera, je me sentirai mieux de ne plus voir des femmes nues pour un pot d'échappement, quoi. Je serais très heureuse de ne plus voir ça. Voilà, par exemple.
Mais ce qui m'indigne, c'est la mondialisation, c'est que c'est l'économie qui gère tout. Et que tout est en fonction de ça. Et que pour changer ça, galère. Hein. Alors, on ne doit pas dire qu'on ne sait rien faire, qu'on sait faire quelque chose, mais ce n'est pas évident.
Qui m'indigne la justice, les injustices vécues par les femmes. Principalement lié au sexisme parce que je fais partie du collectif Elle bouge à Liège et on a toutes vécu des choses, donc c'est souvent de ça qu'on part, quoi, du quotidien, une remarque dans la rue, un comportement déplacé de la part d'un homme ou d'un garçon, et ça m'énerve beaucoup, quoi. Oui, donc c'est pour ça que j'aime bien de bouger par rapport à ça, quoi.
Alors, qu'est-ce qui m'indigne le plus comme femme? Oh, c'est l'imbécilité des gouvernements.
Qu'est-ce qui m'indigne? Oh là là! Le dur, c'est de choisir une chose qui m'indigne. Qu'est-ce qui m'indigne? Qu'est-ce qui m'indigne? Ben, que les femmes ne soient pas entendues dans leurs vraies demandes, dans leurs vrais besoins.
Alors, ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des changements. En fait, on n'a pas ce qu'on revendique, on n'obtient rien encore pour le moment. Je me demande est-ce qu'on va obtenir au moins quelque chose par rapport aux situations que nous vivons en tant que femmes, et des situations très compliquées, très graves, et que c'est vraiment, il faut prendre le problème à bras le corps pour pouvoir changer cette situation. Mais voilà. On ne voit pas encore le bout du tunnel.
Et moi, ce qui m'indigne, en fait, c'est le... Même encore à l'heure actuelle, c'est le machisme des hommes, quoi. Donc, c'est-à-dire que, en général, quand tu es avec un homme, tu dois taper les courses, la vaisselle, tirer les assiettes, je sais pas, la lessive, le repassage, tout, quoi. Les enfants, voilà, quoi. Et ça, je trouve que on vit une époque où la femme travaille autant que l'homme, et je trouve qu'il faut partager les tâches. C'est un peu facile de dire, t'es une femme, alors tu tapes tout, parce que nous, les hommes, on est mieux dans le garage à bricoler des conneries, quoi. Enfin, des conneries. Je trouve que le bricolage, pour un homme, enfin, je dis ça parce que des fois, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je suis occupée à bricoler, mais... C'est quoi bricoler? C'est un passe-temps, c'est un loisir, hein? C'est pas une lave-vaisselle, le ménage, c'est une corvée.
Alors, ce qui m'indigne concernant la femme, c'est de la valeur qu'on donne à la femme jusqu'à aujourd'hui, depuis que le monde a commencé. C'est comme ça que ça a été, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Je remercie toutes les personnes qui sont engagées dans cette lutte-là de retrouver un peu la valeur de la femme, les hommes comme les femmes, parce que les hommes aussi luttent aussi beaucoup pour que la femme retrouve sa place dans la société.
Et en tant que femme, ce qui m'indigne particulièrement, c'est l'inégalité des salaires, premièrement, et la pilule. Je pense que c'est un poison, et je pense que, c'est une catastrophe d'avoir mis ce genre de plan sur le marché pour soi-disant faire plaisir aux femmes, alors qu'en réalité, elles empoisonnent quotidiennement. Voilà.
Qu'est-ce qui m'indigne profondément, c'est l'inégalité des sexes aujourd'hui, à l'an 2011, et plus particulièrement les publicités sexistes, où pour vendre de l'orangina ou pour réparer son garage, on doit indigner et humilier la femme, et je ne comprends pas que ce soit autorisé par les autorités publiques. Ça, le jour où ça changera, je me sentirai mieux de ne plus voir des femmes nues pour un pot d'échappement, quoi. Je serais très heureuse de ne plus voir ça. Voilà, par exemple.
Mais ce qui m'indigne, c'est la mondialisation, c'est que c'est l'économie qui gère tout, et que tout est en fonction de ça.
et que pour changer ça, eh ben, galère. Hein. Alors, on ne doit pas dire qu'on ne sait rien faire, qu'on sait faire quelque chose, mais ce n'est pas évident.
Qui m'est indigne la justice, les injustices vécues par les femmes, principalement bah, liées au sexisme, parce que voilà, je fais partie du collectif Elle bouge à Liège et on a toutes vécu des choses, donc c'est souvent de ça qu'on... C'est ça qu'on part, quoi, du quotidien, une remarque dans la rue, un comportement déplacé de la part d'un homme ou d'un garçon. Et ça m'énerve beaucoup, quoi, oui. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien bouger par rapport à ça, quoi.
Alors, qu'est-ce qui m'indigne le plus comme femme? Oh, c'est l'imbécilité des gouvernements. Dans son imbécilité, les gouvernements font des lois et... pensent qu'ils vont régler le manque de jugement des citoyens, ok, devient décideur pour les individus. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de préoccupation envers les individus femmes. Quand ils parlent des citoyens, maintenant le langage de nos gouvernements chez nous parle des citoyennes et des citoyens et met beaucoup de féminisation dans ses discours, mais dans ses actions, ça paraît pas.
Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM. Alors, nous allons reprendre un petit peu sur les indignations personnelles que nous avons par rapport au genre féminin. Amina.
Oui. Ben voilà. Moi, ce qui m'indigne, c'est que, en tant que femme, on avait demandé la liberté et tout. Donc, on a eu la liberté. Et alors, maintenant, le problème, c'est que c'est comme si on est puni. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, même au travail, même tout. Donc, quand on parle, quand on dit, par exemple, je vais à la maison et je dis, ah, je suis fatiguée. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va me dire, mon mari? Eh bien, tu voulais l'égalité, alors tu l'as. Ben, tu n'as qu'à assumer. Donc, ce que je trouve, c'est pas normal. Mm-hmm. Donc voilà, il y a une chose comme ça, et en plus, pour l'égalité entre la femme et l'homme, c'est normalement au niveau paiement. Quand on travaille mi-temps, ouais. Quand on travaille plein temps, donc moi je travaille mi-temps et il y a quelqu'un d'autre qui travaille mi-temps comme moi, c'est un homme, donc je suis payée moins que lui. Et quand on parle de ça, non, ben voilà, vous voulez ça, vous voulez l'égalité, vous voulez plein de choses, eh ben assumez pour eux, est-ce que l'égalité... entre la femme et l'homme, est-ce que c'est une punition ou c'est un droit pour la femme? Parce que c'est notre droit. Donc, ben voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça?
Ben, je voudrais juste dire que ben, l'écart salarial en Belgique est énorme. Il est de 21%.
Oui.
Mmh. Donc, voilà. Donc, il y a toutes les raisons de s'indigner.
Christine, toi personnellement, qu'est-ce qui t'indigne le plus?
Oh, ben moi, ce qui m'indigne, ben, c'est ce retour en arrière de la condition des femmes. On voit bien qu'il y a une alliance entre ce capitalisme sauvage, entre l'Église qui revient, entre l'extrême droite, qui profite de toutes les possibilités, si on peut dire, pour vraiment reléguer la femme à son rôle. À son rôle de garde d'enfants, à son rôle de préparation des aliments, enfin à son rôle de génitrice et de mère et de femme, et alors qu'on s'est battu, et surtout je pense aux générations antérieures, les femmes du mouvement MLF se sont battues pour des choses tellement plus importantes qu'on essaye de nous enlever, comme la liberté de disposer de son corps, qui est de plus en plus aussi universellement dans le monde menacée, comme la liberté d'avoir une autonomie économique, parce que c'est ça qu'on nous enlève derrière les mesures d'austérité. En nous imposant d'être à la maison, ben on n'a pas 20 000 choix, on doit diminuer notre temps de travail si on veut s'occuper des enfants. On n'a plus cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc on est vraiment de plus en plus relégué à ces tâches qui sont vraiment d'un autre temps, et ces acquis féministes deviennent de moins en moins des acquis et deviennent des choses pour lesquelles il faut se battre et et qui pour moi sont indispensables et fondamentales, quoi. Une femme ne se limite pas à quelqu'un qui se sacrifie pour les autres et qui n'a pas de projet et d'ambition propre.
D'accord. Exactement. Ben, je vais réagir tout de suite parce que vraiment là, il y a beaucoup de choses qui m'indignent, mais une des choses qui me touche plus le cœur, qui est parfois au nom aussi des traditions, au nom du système capitaliste, au nom de religion, au nom de, alors on dit non, tu peux pas parce que tu es une femme. Eh ben non. Moi, cette chose-là, vraiment, tu peux pas parce que tu es une femme. Et ça peut être le vélo, comme un temps. Ça peut être, voilà, le corps, la procréation, tout. Et le travail, l'autonomie. Et donc, tu te rends compte qu'il faut toujours être vigilante, lutter, et que les acquis, comme on disait, comme Amina aussi disait tout à l'heure, et on disait tout à l'heure, tu sais, ils sont des acquis, que c'est un travail vraiment dans les consciences, dans les quotidiens, d'un collectif et individuel, parce qu'il y a, les deux qui doivent rentrer. Donc, on doit être vigilante, on doit être là, on doit se battre tous les jours pour une chose qui est, voilà, qui devrait être
normale.
Normale. Extrêmement normal.
Eh ben pour moi, si je dois dire tout ce qui m'indigne, eh ben je vais vous avouer que la liste est longue. Mais bon, je vais pas trop m'éparpiller là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que le plus qui me marque le plus, c'est quand une femme subit un viol. Et la première question qu'on lui pose, est-ce que tu n'as rien fait pour ? Ça, c'est quelque chose qui me tue. Je suis désolée, je suis violée, on m'a violée, je ne l'ai pas cherchée, mais au lieu de réagir différemment, il n'y a pas longtemps, il y a encore 2 ou 3 semaines, quand j'ai appris pour la journaliste française, mm-hmm. elle a été violée en Égypte et frappée et tout, parce qu'elle était occupée à faire son boulot. Le jour où elle avait décidé d'être journaliste, elle savait les conséquences, elle savait ce qu'elle attendait. Mais quand elle a été violée, ce que j'ai appris par la radio, par la télévision, eh ben, dorénavant, on n'envoie plus de femmes journalistes sur des territoires comme la Libye,
c'est un viol punitif.
Voilà. Mais je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai vu l'interview avec la journaliste. Mais pourquoi? Non, plus de femmes. Mais il y avait le caméraman aussi qui a été massacré. On a cassé sa caméra, on l'a frappé. Et lui, on peut l'envoyer parce que c'est un homme. Voilà. Et quoi, c'est de la protection. Et on se cache derrière, on veut la protéger. Mmh. On n'a pas besoin de votre protection. Mmh. On est des personnes à part entière. On est égal à vous. Mmh. Un homme égale une femme. Alors, je ne vois pas pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte. Il y a aussi un autre truc. Le passage devant les portes d'école, eh bien, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi c'est mon boulot de conduire mon fils à l'école ou d'aller le chercher, malgré que je travaille à temps plein ailleurs? Pourquoi c'est à moi de le faire? Pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui aillent chercher leurs enfants à l'école? Et tout ça, c'est des questions et des questions et des questions. Et là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réponses, quoi. Je vous ai dit, la liste est longue. On va y arriver. Je suis motivée.
Oui.
Moi, ce qui m'indigne un peu plus personnellement, c'est l'amalgame qui est fait autour de la religion et qu'on dise aux femmes quand elles doivent comment elles doivent s'habiller, si elles doivent montrer leur peau ou pas, et tous ces jeux de pouvoir en fait, voilà. Donc en fait la femme ne peut pas se voiler parce que c'est un symbole de soumission. La femme doit porter des mini-jupes parce que c'est ça, être femme. Voilà, tout ça, c'est des choses, quelque part... Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas s'habiller comme elle veut sans qu'on lui demande rien, quoi?
Je suis d'accord avec toi. Et là, franchement, tu me lances une perche. Mais alors, c'est l'occasion. Moi, j'ai juste un appel ou un message. Arrêtez de se cacher derrière la religion. La religion a dit
que la femme doit être voilée de la tête aux pieds. Ça n'a jamais été prouvé. Pour moi, chacun, et surtout, quand je dis chacun, je m'adresse à l'homme, chacun tourne la religion à son avantage. D'accord, la religion a demandé que ta femme, elle doit être voilée de la tête aux pieds. Ok, pourquoi tu regardes la femme de ton voisin qui est en mini-jupe? Ça aussi, la religion l'interdit. Ah, c'est interdit pour elle, mais pas pour toi. Alors là, je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord.
Okay. Mais ça me parle et simplement je vais faire une petite anecdote. Le film que j'ai vu hier soir, donc c'est vraiment là, il y a justement, elle l'appelle Vieux Fusil, c'est une femme du village, le film c'est La Source des Femmes, ouais. Je vous invite à voir. Et donc elle parle, elle dit voilà, mais pourquoi, parce qu'avant on devait distinguer les esclaves et les nobles, etc. Mais alors, mais voile-toi les yeux, mais alors, mais... Non, elle est vraiment, c'est excellent, c'est aussi rigolo, mais comment on utilise les religions, les traditions, c'est pour...
C'est un manque de courage.
Ben voilà, donc je pense que face à tout ça, il faut que les femmes se retrouvent dans l'action collective. Et là, moi j'aurais une petite invitation à faire aux femmes qui sont autour de la table, mais également à nos auditeurs et auditrices. Donc, la crise de la dette, là, elle est là depuis 2008 et elle est surtout dans ses conséquences depuis 2010, donc dans les mesures d'austérité qui sont imposées. Et les femmes, les féministes ne peuvent plus rester sans s'impliquer dans ce combat contre la dette et contre les mesures d'austérité. Donc en Grèce, où j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe, les gens commencent à manquer d'électricité, ils ne savent plus se soigner, les écoles ferment, il y a de moins en moins de personnes qui mangent à leur faim. On est là en Grèce. Ouais. Hein. Donc les femmes grecques ont mis en place en janvier de l'année passée une initiative qui s'appelle Femmes en mouvement contre la dette et les mesures d'austérité. Et cette initiative se veut européenne parce que ce n'est pas en luttant chacune dans nos pays d'une manière isolée qu'on y arrivera. Donc progressivement, cette initiative s'est élargie à des femmes des pays de l'Est qui, elles, subissent l'austérité depuis longtemps, à des Anglaises, à des Françaises, à des Polonaises, à des Espagnoles et maintenant à des Italiennes. Et donc nos objectifs sont... en même temps de voir au quotidien quelles mesures d'austérité dans tous les pays ont des impacts sur les femmes et aussi d'avoir des actions en tant que féministe pour véritablement montrer que les femmes sont en première ligne des mesures d'austérité. Et là, je crois que je vais laisser mes coordonnées au cas où vous seriez intéressés à nous rejoindre. Donc, elles sont simples. C'est mon prénom, donc christine@cadtm.org. Donc, comité d'annulation de la dette du tiers-monde. .org et n'hésitez pas à me contacter pour des renseignements, une entrevue et tout ça. Donc et Georgia. Okay.
Je laisse également les coordonnées et donc c'est ef-jet@vifeminine.be. Donc pour savoir un peu plus et pour se rassembler.
D'accord. Nous allons continuer avec une capsule sur l'autonomie, c'est-à-dire un chant qui a été créé, donc dont les paroles ont été inventées lors de la semaine d'études en juillet.
L'autonomie, elle est plurielle. Désobéir tous ensemble, on veut s'affirmer, pas de recette déjà toute faite. Dis de vrai oui et de vrai non. L'autonomie est dans la tête. Désobéir tous ensemble, on peut résister, pas de recette déjà toute faite. Et n'abandonnons pas n'importe quoi. L'autonomie, c'est d'être libre. Désobéir tous ensemble, on veut s'amuser, pas de recette déjà toute faite. Ouvrons de nouveaux horizons.
ben voilà, c'est maintenant que t'arrives.
Elle est plurielle. Réveillir tous ensemble, on veut s'affirmer, pas de recette déjà toute faite, ni de vrai oui et de vrai non. L'autonomie est dans la tête. Désobéir tous ensemble, on peut résister, pas de recette déjà toute faite. Et n'avalons pas n'importe quoi. L'autonomie, c'est d'être libre. Désobéir tous ensemble, on veut s'amuser, pas de recette déjà toute faite. Et on donne nos horizons.
Voilà, l'émission est terminée. Je remercie Christine, qui est coordinatrice du CADTM.
CADTM, je ne coordonne pas tout le CADTM, je suis permanente au CADTM.
Voilà, et Georgia, ainsi que Aziza et Amina, qui travaillent à Vie Féminine.
Et Martha, également.
Et alors, vous rappelez notre site internet qui est www.viefeminine.be, ou alors vous pouvez aussi avoir l'adresse internet de Radio Panique sur www.radiopanique.org. Merci et à bientôt.
Merci.
Merci et vive l'action collective des femmes.